Bulle d'histoire. Hein ? Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bande dessinée.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je suis avec un scénariste, pas seulement de bande dessinée. Il va nous montrer l'étendue de son talent. Je suis avec Bruno Le Signe pour parler d'une série étonnante qui s'appelle Le Système Solaire, publiée par les éditions Glénat. Chaque album est consacré à une planète. Il y a une histoire qui va avec. Bruno va nous raconter tout ça, mais Bruno, avant de commencer notre entretien, je te pose la question classique qui ouvre toutes les bulles d'histoire. Qui es-tu ?
J'ai commencé ma carrière comme écrivain de science-fiction et directeur et de polar aussi d'ailleurs, et directeur de collection pour des romans. Et puis, en 1986, j'ai été embauché par les Humanoids Associés comme directeur de collection. Et voilà, j'y suis resté pendant plus de 30 ans, 30, 35 ans, 36 ans, en étant successivement directeur d'édition, directeur général, et puis directeur littéraire jusqu'à ces dernières années là où j'ai pris ma retraite. Et puis mais parallèlement, depuis 1995, j'écris énormément de scénarios pour la télévision, principalement on va dire des fictions policières, plus de 70 téléfilms qui sont actuellement à mon répertoire à la SACD, des épisodes de séries ou bien des séries entières ou bien des unitaires. Et j'ai créé la série Cassandre, et co-créé la série Cassandre, et puis également co-créé la série La Doc Helvéto. Voilà, tout ça pour France Télévisions. Et puis, je me suis occupé essentiellement de grands auteurs de la maison des Humanoïdes Associés, Moebius, Jodorowsky, Margerin, Manara, Dupuy Berberian, la liste est longue.
Oui.
Puis quand j'ai commencé à prendre un petit peu ma retraite en tant qu'éditeur, eh bien, ça m'a donné envie de m'occuper de mes propres histoires, de mes propres scénarios et non plus des histoires des autres. Il y a 3 ans, la rencontre avec Christian Blondel, qui m'a parlé de son projet de faire une bande dessinée didactique, mais en trouvant un moyen de rendre l'exploration des planètes du système solaire. En fait, on visite 7 planètes sur 8, puisqu'on n'a pas visité la Terre,
bien sûr.
Et on finit par un 8e volume qui est consacré au Soleil. Voilà. Et donc, du coup, on a commencé à réfléchir donc avec Christian et aussi avec le directeur d'édition chez Glénat, Philippe Horry, qui est la personne que je connaissais très bien, en fait, qui connaissait mon intérêt pour la science-fiction et pour les sciences en général, d'ailleurs, puisqu'on a travaillé ensemble chez les Humanoïdes Associés pendant pas mal d'années, avant que lui ne rejoigne les éditions Glénat. Donc c'est lui qui m'a fait connaître Christian, en pensant que j'étais éventuellement l'homme de la situation, puisque je pouvais maîtriser les sujets scientifiques, en même temps j'étais capable d'écrire une bande dessinée et d'y apporter un élément de fiction, un élément de science-fiction qui permettrait de rendre ces histoires, cette exploration avec un caractère ludique, voilà, qui nous permettrait de, en gros, apprendre en s'amusant.
Ce qui est fascinant, c'est qu'on se dit faire des bandes dessinées sur les planètes, ça va être compliqué d'intéresser le lecteur. Donc, comment tu as imaginé cette histoire ? Parce que quand on lit les albums, on voit bien qu'il y a une histoire qui va se dérouler sur toute l'exploration du système solaire. Qu'est-ce qui t'a conduit à imaginer comme ça ce groupe d'explorateurs qui va rencontrer un extraterrestre ?
L'idée, donc, c'était d'explorer et de décrire les planètes le plus scientifiquement possible. Et évidemment, la seule façon de le faire pour que ce soit attrayant, c'est de le faire à travers une histoire. et une histoire. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est trois choses. Ce sont des personnages, des personnages et des personnages. Du coup, l'idée de départ, c'était de créer un groupe de personnages, tous plus ou moins scientifiques, qui vont eux-mêmes, en personne, visiter ces planètes, les explorer et permettre aux lecteurs de les explorer avec eux. À partir de ce groupe de six personnages, astronomes, géologues, exobiologistes, informaticiens, commandants aussi, eh bien, je me suis dit que la seule solution, c'était d'avoir recours à l'imagination et donc à un vaisseau extraterrestre. Ce vaisseau extraterrestre, ce serait le véhicule qui nous permettrait d'emmener les Terriens faire tout le tour du système solaire en quelques mois. Voilà comment on est arrivé à cette idée. Et puis à partir du moment où on avait un vaisseau extraterrestre avec un extraterrestre, ben on s'est dit que ce qui pouvait être sympa, c'est d'avoir toujours, dans une proportion mesurée, dans chaque album, de pouvoir développer aussi une petite histoire autour de ce vaisseau. D'où vient-il? Qui est cet extraterrestre? Quels sont ses buts avoués, ses buts secrets? De la même manière qu'au sein des explorateurs terriens, au sein des scientifiques, de la petite équipe de scientifiques, eh bien, il pouvait y avoir aussi des petites histoires, des secrets, des agendas secrets aussi. Donc, d'album en album, il y a le fil de petites intrigues secondaires comme ça qui se nouent, se dénouent, et on va apprendre au fil des albums qu'est-ce qui motive aussi quelque part cet extraterrestre à avoir accepté d'emmener ce groupe de terriens pour explorer le système solaire.
Ça, c'est le côté fiction.
Voilà.
On a l'impression, en tout cas, que l'extraterrestre, il y a un extraterrestre, j'allais dire, sympa et collaboratif, enfin, qui coopère avec les Terriens. On sent très vite qu'il y a quand même des choses, pas claires dans cette aventure.
À fait. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui va se découvrir de album après album. On va en apprendre un peu plus sur l'extraterrestre lui-même que les Terriens ont baptisé Clark, évidemment l'hommage à Arthur C. Clarke est un petit peu évident.
Alors, dans la science-fiction, je trouve que là aussi, le côté science, notamment pour tout ce qui est exploration des planètes, est vraiment très bien dosé. Tu as réussi à donner beaucoup d'informations, beaucoup de science, mais en restant à un niveau totalement compréhensible pour le néophyte.
Ce travail que j'ai fait, qui était un travail aussi de beaucoup de documentation, a été contrôlé et corrigé, même dans certains cas, par les astronomes de l'Observatoire de Paris, qui sont partenaires avec nous sur ces livres et qui sont évidemment très attentifs à la véracité des informations qui figurent dans la bande dessinée. L'un d'entre eux, à chaque fois, à la fin du livre, rajoute un cahier documentaire qui permet à ceux qui auront été intéressés par tout ce qu'ils ont appris dans la bande dessinée d'approfondir un petit peu leur connaissance, d'en savoir un petit peu plus et de rentrer dans une science un petit peu plus dure.
L'autre chose que j'ai bien aimé, c'est aussi le jeu entre ce qu'on sait de ces planètes, parce qu'on n'y est jamais allé, hein, c'est comme tu disais, c'est très très loin, ou alors c'est extrêmement dangereux quand on s'approche du Soleil ou quand on s'en éloigne trop. Mais il y a beaucoup de péripéties scientifiques, notamment quand il y a des tempêtes de sable ou de poussière sur Mars, quand ils essayent de pénétrer une couche de glace sur Jupiter. Comment tu as trouvé ces épisodes? Est-ce que ce sont les scientifiques qui t'ont dit, voilà, il se passe ça sur cette planète et ça peut être un bon truc?
Alors en fait, c'est plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est moi qui ai dit, tiens, j'imaginerais bien cette péripétie, et j'ai demandé à ce moment-là aux astronomes, à votre avis, est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, nos explorateurs, pardon, étaient perdus dans une tempête de sable sur Mars? Quelles sont les forces qui sont en jeu? Comment est-ce que ça se passerait? Qu'est-ce qui pourrait leur arriver? Voilà, je les ai questionnés de la même manière pour Jupiter. Je savais que C'était absolument impossible de pénétrer à l'intérieur de Jupiter parce que les conditions de température et de pression sont telles que tout est écrasé. Donc évidemment, j'ai imaginé une navette un petit peu particulière, une navette extraterrestre qui pouvait résister bien plus que la sonde. Il y a une sonde hein, qui a été envoyée par les humains qui s'est abîmée dans Jupiter, qui a été détruite très très rapidement en fait. Donc imaginez plutôt un vaisseau qui pourrait résister, en tout cas au moins pendant un certain temps, de façon à ce que on puisse descendre à l'intérieur même de cette géante gazeuse pour pouvoir en observer de près les phénomènes orageux, la composition de l'atmosphère qui est faite de gaz extrêmement toxiques, et puis aussi les effets de la pression, puisque sur la force de gravitation sur Jupiter est énorme, puisque c'est une planète géante, c'est la plus grande planète du système solaire, donc inutile de dire que c'est impossible de s'y rendre ne serait-ce qu'en scaphandre, parce qu'on est immédiatement aplati comme une crêpe et vaporisé en fait instantanément par la pression en fait. On a procédé comme ça pour Mars, pour Jupiter et pour Saturne. Pour Uranus et pour Vénus, on a inversé le processus. Mars, Jupiter, Saturne sont des planètes sur lesquelles nous avons beaucoup d'informations et des informations facilement accessibles, des informations facilement disponibles que j'ai pu trouver aisément pour ces trois planètes. En revanche, Neptune et Uranus sont des planètes qui sont beaucoup moins connues, beaucoup moins explorées, et pour lesquels il est beaucoup plus difficile d'aller en bibliothèque, sur Internet, dans les ouvrages que j'ai sur l'astronomie, de trouver suffisamment d'informations pour pouvoir imaginer des péripéties et décrire avec une vraie rigueur scientifique ces deux planètes. Donc là, à l'inverse, plutôt que d'écrire d'abord et d'être corriger ensuite, avec les astronomes de l'Observatoire de Paris, on a fait des réunions préparatoires avant l'écriture. Voilà.
Oui, parce que ce qui est fascinant, c'est que finalement, l'exploration des planètes, même si ça commence avec les Grecs, la vraie connaissance est assez récente. Et même si ce sont des objets qui sont à la fois très loin et très proches à l'échelle de l'univers, des galaxies, on sait des choses, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Comme on ne peut pas y aller, il y a plein de mystères encore. Ça aussi, c'est un super moteur de la fiction, ça.
Tout à fait. Et puis, si on connaît assez bien, plutôt par leur mouvement, les planètes les plus proches, c'est-à-dire les planètes que depuis l'Antiquité, on pouvait voir à l'œil nu dans le ciel, et donc dont on pouvait mesurer les mouvements, les déplacements, et parfois avec des choses assez étranges. Par exemple, Vénus, qui est certainement la planète qui est la plus facile à voir dans le ciel, eh bien longtemps la plupart des civilisations et des cultures, à part les Babyloniens, ont cru que on voit selon selon la période de rotation de Vénus autour du Soleil, on la voit apparaître dans notre ciel soit le matin, soit le soir. Très longtemps, les grandes civilisations, hormis donc les Babyloniens, ont cru qu'il s'agissait en réalité de deux astres, un astre du matin, un astre du soir. Et ce n'est que le développement des lunettes, les progrès de l'optique, que on s'est aperçu qu'en réalité c'était une seule et même planète dont la rotation autour du Soleil était beaucoup plus rapide. Ça veut dire que dans sa course autour du Soleil, d'abord ça nous a permis de Vénus, c'est Vénus qui a permis à Galilée de prouver que la Terre et Vénus et les autres planètes tournaient autour du Soleil et non pas évidemment l'ensemble des corps célestes qui tournaient autour de la Terre comme on l'a longtemps cru. Et donc c'est les développements de l'optique ont permis de commencer à connaître un petit peu mieux les différentes planètes en les observant toujours de la Terre, mais parfois avec des choses assez étonnantes et paradoxales, comme lorsque on a pu voir des canaux sur Mars et où on a pensé que il y avait éventuellement une civilisation évoluée capable de creuser des canaux qui existaient sur Mars, d'où les Martiens, nous les fameux Martiens qui ont longtemps été des personnages de science-fiction et qui nous ont envahis plusieurs fois, etc., etc. Et puis à partir de au-delà de Saturne, les planètes et les corps célestes qui sont au-delà de Saturne, on ne pouvait pas les observer.
Oui, c'est trop loin.
Voilà. Donc, ce sont des planètes qu'on a découvert et dont on a découvert l'existence, ou parfois certains phénomènes comme les anneaux de Saturne sont des choses qu'on a découvertes qu'à partir du moment où on a eu des lunettes assez puissantes. Et donc, ce qui est aussi intéressant dans cette série d'albums, c'est aussi de raconter un petit peu l'histoire de l'astronomie aussi. C'est-à-dire comment, qu'est-ce qu'on savait de ces planètes dans l'Antiquité, qu'est-ce qu'on croyait sur Mars, qu'est-ce que voilà, comment est-ce que on a découvert les anneaux de Saturne, et puis ensuite comment est-ce que avec les débuts de l'exploration spatiale, avec les premières sondes qu'on a pu envoyer dans l'espace, avec la possibilité de ramener des images, d'envoyer des images sur Terre, ben on a découvert que les quatre géantes gazeuses, les quatre dernières planètes du système solaire, comme Saturne, avaient toutes des anneaux. Mmh. On ne pouvait pas les observer depuis la Terre, mais Jupiter a des anneaux, Uranus a des anneaux, Neptune a des anneaux. Et puis, voilà, après, on a découvert aussi l'existence encore bien au-delà, ça c'était au XXe siècle, hein, en 1930, la première planète naine, Pluton, qu'on a pensé être une nouvelle planète du système solaire, et puis qui finalement, parce qu'on s'est aperçu que aux confins du système solaire, et même d'ailleurs entre Mars et Jupiter, eh bien, il y avait une grande quantité de planètes naines. Donc, voilà, ça, on l'a donc déclassé de son rang de planète principale du système solaire. Voilà, et tout ça, ce sont des choses qu'on peut raconter. Et puis, évidemment, ce qui est toujours évidemment le plus passionnant, le plus motivant pour les lecteurs, c'est de voir nos personnages aller sur place, fouler le sol de certains satellites, puisque pour les géantes gazeuses, on peut évidemment pas y marcher, puisqu'il n'y a pas de sol, tout simplement parce que ce sont des géantes gazeuses. Mais en revanche, la plupart de ces géantes, enfin, c'est les quatre géantes gazeuses de notre système solaire, ont toutes énormément de satellites. Et ça, ces satellites, ils sont rocheux, comme la Terre, comme Mars, comme Vénus ou Mercure. Et donc, on peut s'y rendre, on peut y observer les phénomènes qui s'y déroulent, et on peut aussi y vivre des grands dangers.
Moi, ce que j'ai trouvé fascinant, et ça, je me suis mis un petit peu du point de vue des scientifiques de l'observatoire qui travaillent avec toi sur ces albums, c'est quasiment que tu les transportes sur les planètes. J'imagine que pour eux, ça doit être quelque chose d'assez réjouissant de se voir, entre guillemets, débarquer sur Saturne, sur Vénus, sur Uranus. Ça doit être une jubilation pour eux de s'imaginer à leur place de leurs collègues de dessin.
Ah, je dois dire qu'on a tout de suite eu un excellent accueil de leur part dès le début du projet, et que les réunions que je peux faire avec les astronomes, c'est toute une équipe évidemment d'astronomes, hein, qu'il y a à l'Observatoire de Paris, chacun a sa spécialité. Il y a le spécialiste de Mars, il y a le spécialiste des astéroïdes, il y a le spécialiste de Jupiter, le spécialiste des satellites de Saturne. Voilà, le spécialiste de la ceinture de Kuiper et du nuage de Oort. Voilà, et chacun a sa spécialité. Donc, pour chaque livre, pour chaque sujet, eh bien, je fais souvent une réunion avec deux, trois astronomes, mais qui ne sont pas les mêmes d'une planète à l'autre, en fait. Voilà.
Oui, parce qu'en lisant tes albums, j'ai réalisé une chose, c'est qu'à la fois l'ignorance et la méconnaissance des planètes a pu conduire à des histoires extraordinaires de petits hommes verts, de martiens, d'hommes venus d'ailleurs. Donc ça, c'était la méconnaissance. Mais maintenant qu'on a la connaissance de ces planètes un peu plus affirmée, ben on passe tout autant à la fiction. Ça, j'avais jamais réalisé ça en fait avant de lire tes albums.
Mais en fait, dans science-fiction, il y a le mot science, et donc la science-fiction est quelque chose qui est une spéculation à partir des connaissances scientifiques qu'on a à un instant T. Donc c'est vrai que à partir du moment où on a découvert qu'il y avait d'autres planètes et que sur ces autres planètes on pouvait pourquoi pas imaginer la vie, eh bien voilà, on a eu les Martiens, on a eu des Vénusiens, on a même eu des Jupitériens. On se demande vraiment comment ils pouvaient vivre sur une géante gazeuse, mais voilà. Et donc au fur et à mesure des progrès de la science, des progrès de la connaissance, et on est loin de tout savoir hein, sur les planètes de notre propre système, bien les connaissances ont fait que bien sûr les Martiens ont disparu que les conditions de vie qu'on connaît pour être celles des planètes les plus lointaines sont sont tellement hostiles en fait à la vie biologique que on est venu assez vite à cette idée que la Terre est une planète miracle, que sans doute seule sur la Terre la vie a pu se développer et s'organiser et pour arriver jusqu'à une vie intelligente, et que en tout cas on sait que ce n'est pas le cas dans les autres planètes du système solaire, mais on a longtemps pensé que c'était même impossible à l'échelle de l'univers. C'est-à-dire qu'il fallait une telle combinaison de facteurs pour que la vie apparaisse que la plupart des scientifiques, jusque dans les années 50, 60, pensaient que c'était un phénomène unique. Par conséquent, l'existence des extraterrestres relevait de la pure imagination. Et puis, on a fait quand même pas mal de découvertes qui ont battu en brèche cette idée. C'est-à-dire, d'abord, on a découvert qu'il pouvait exister des formes de vie qu'on appelle extrémophiles, c'est-à-dire des formes de vie qui peuvent vivre dans les abysses, sans oxygène, sans lumière du soleil, et que ça n'empêchait pas la vie de s'y développer au fin fond des océans. Et ensuite, on a découvert, on a vu que les comètes, les astéroïdes étaient riches de matières organiques et que ces matières organiques étaient peut-être celles qui avaient été apportées sur Terre par ces corps célestes étrangers. Et puis, on a découvert que des planètes autour les systèmes solaires avec des planètes rocheuses autour de un astre, ce n'était pas quelque chose d'assez rare dans l'univers, c'était au contraire la règle. C'est-à-dire qu'il y avait des milliards et des milliards de planètes dans l'univers, avec la probabilité que la vie y apparaisse devenait à l'inverse très forte.
Tout à fait.
Voilà. Y compris maintenant, on se demande, est-ce que la vie n'a pas existé sur Mars à une période antérieure de l'histoire de cette petite planète? Est-ce que sur cette planète qui, il y a 4 à 5 milliards d'années, il existait des océans liquides? Il existait une atmosphère un peu plus dense? Est-ce que la vie n'a pas existé sur Mars avant d'être anéantie par, notamment par un astéroïde hein, géant qui a frappé la planète? Est-ce que finalement, des astronomes comme Hubert Reeves ont même émis l'hypothèse que la vie a existé sur Mars, que l'astéroïde qui a percuté Mars a envoyé toute cette matière dans l'espace et qu'elle est arrivée sur la Terre, que peut-être la vie sur Terre a peut-être été aussi ensemencée par la vie qui avait été détruite sur Mars, hein, puisqu'on retrouve des fragments de Mars sur la Terre qui sont arrivés par l'espace. Voilà. Est-ce que sur les satellites qui sont sous une couverture glacée contiennent des océans d'eau liquide, les satellites autour de Saturne ou de Jupiter, est-ce que la vie ne peut pas exister comme elle existe dans nos fonds marins les plus profonds? Donc aujourd'hui même, on se demande même quand même si la vie n'existe pas sous une forme cellulaire, hein, purement cellulaire, mais si elle n'a pas existé ou si elle n'existe pas toujours dans notre propre système solaire. Voilà, c'est une question fascinante Voilà, on aura peut-être un jour la réponse grâce au progrès des explorations spatiales.
Bruno, le temps passe et notre interview arrive à son terme. Je te remercie beaucoup pour cette demi-heure passée avec moi pour parcourir le système solaire. Donc il y a deux albums qui ont déjà sorti, Mars et Jupiter. C'est 15,50 €, ça fait 64 pages. Il y a effectivement c'est une histoire d'aventure, une aventure scientifique et spatiale avec un cahier documentaire vraiment très dense, très passionnant. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux me dire quelle est la prochaine planète qu'on va pouvoir découvrir ?
Alors, à la rentrée, ce sera Saturne.
Ah, pas mal.
Voilà.
Pas mal.
En fait, nos explorateurs sont partis de la Terre, même plus précisément des abords de la Lune, et ils vont vers les bords du système solaire. Donc, dans l'ordre, on a visité Mars, on a visité Jupiter, on va aborder ensuite Saturne, puis Uranus, puis la dernière grande planète, Neptune. Et à cette occasion, on parlera aussi des confins extrêmes du système solaire. Jusqu'où va le système solaire? Est-ce qu'il s'arrête? Les barrières d'astéroïdes qui sont dans ces confins, les planètes naines comme Pluton. Et puis ensuite, on revient vers l'intérieur du système solaire et on visitera, toujours dans l'ordre, mais là cette fois en allant vers le Soleil, Vénus, puis Mercure et enfin le Soleil. Ce sera la conclusion de la collection.
Ben, je te remercie beaucoup et ben, je conseille à tout le monde de lire ça parce qu'on suit l'histoire, c'est passionnant, c'est palpitant et puis ben, on apprend vraiment plein de choses sur les planètes qui nous entourent. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine série.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.